Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Merci d'être fidèle au rendez-vous de Mélomanie et bienvenue à tous ceux qui découvrent le magazine de l'actualité musicale toulousaine et régionale avec encore un numéro très dense puisque les semaines se suivent et se ressemblent par la profusion de concerts et de représentations à Toulouse et ailleurs. Il en devient même difficile de tout recenser et de tout annoncer tellement les événements vont jusqu'à se télescoper certains soirs. Les mélomaniaques ne sont donc pas trop de trois pour m'y aider aujourd'hui où j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour Culture 31 et les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Ils entourent notre invité du jour et nous sommes très honorés de la recevoir puisqu'il s'agit de Catherine Dargoubet, cofondatrice et co-directrice artistique du festival Piano Jacobin et fondatrice et directrice des grands interprètes, alors que s'annonce pour cette saison un mois de mars très intense aussi. Nous allons parler longuement avec elle plus tard dans cette émission. Bienvenue à tous les quatre, merci d'avoir répondu à mon invitation. Dans les médias, retour sur l'actualité musicale de la semaine passée pour la première partie de ce numéro.
Mélomanie, retour arrière.
Et en fin de semaine dernière, l'Orchestre National du Capitole donnait un concert à la Halle aux Grains sous la direction du chef letton Andris Poga. Trois compositeurs étaient au programme. D'abord le Toulousain Benjamin Attahir avec son œuvre Saftil Zaman à la mémoire de Pierre Boulez. Dvorak et sa symphonie numéro 8 clôturaient le concert, précédé de Prokofiev et de son concerto pour piano numéro 2. Cette dernière pièce a été l'occasion de découvrir le pianiste russe Andrei Korobeynikov, dont c'était la première collaboration avec l'Orchestre National du Capitole. Et je voudrais qu'on commence justement en parlant de lui, puisqu'il semble qu'il ait très favorablement impressionné le public présent vendredi dernier à la Halle aux Grains. Vous en étiez Anne-Marie et Serge. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeune pianiste russe ?
Eh bien, étant donné le concerto de Prokofiev qu'il a joué, le deuxième, qui est peut-être l'un des plus virtuoses de tous, c'était l'homme de la situation. D'abord, il avait des doigts d'acier tel que Prokofiev en avait, parce qu'on a des enregistrements du temps de Prokofiev. Prokofiev était un grand virtuose. Et on retrouve ce style très mécanique, mais magnifiquement mécanique, de Korobeynikov. Et en plus, il a introduit, bien entendu, des nuances qui conviennent. Donc ça a été vraiment éblouissant, tout ce concerto. Magnifiquement secondé, et encore je dis secondé, mais c'est même mieux qu'accompagné par l'orchestre et Andris Poga. Donc ça a été vraiment un grand moment qui a été acclamé évidemment puisqu'il est revenu donner en bis un prélude de Scriabine. C'était vraiment un grand moment, une très belle interprétation.
Même sentiment pour vous, Anne-Marie ?
Exactement le même sentiment. Et j'ajouterais que j'ai trouvé que ce pianiste qui a des doigts d'acier, qui joue cette musique avec la technique, la virtuosité qui est indispensable, sinon ça n'a pas grand intérêt de jouer ce genre de répertoire. Mais en même temps, c'est un pianiste qui sait s'adoucir, qui sait faire chanter son piano, montrer beaucoup de sensibilité. Et c'était très beau sur tous les plans. Et ce concerto a vraiment trouvé là un interprète qui pouvait restituer toutes les facettes et pas simplement faire une démonstration pianistique transcendante, ce qu'il fait sans problème, mais de façon naturelle et jamais comme une fin en soi.
Donc très belle première pour cet Andrei Korobeynikov, qu'on aura sans doute l'occasion de réentendre à Toulouse. Il y avait d'autres œuvres au programme, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'œuvre de Benjamin Attahir, comment vous avez trouvé ça ?
Il faut préciser que c'est une œuvre qui a été créée en 2013 au Festival de Lucerne, avec le soutien de Pierre Boulez lui-même. Et Benjamin Attahir en a fait une deuxième version après la mort de Boulez en 2016. Et il a tenu à en faire un hommage à Pierre Boulez, puisqu'il a été assez proche de lui. Et c'est vrai qu'on ressentait une certaine influence de Boulez dans la manière de traiter l'orchestre. Un très grand orchestre, vraiment avec beaucoup de percussions, avec vraiment un instrumentarium très développé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai été pris par cette œuvre qui commence de manière mystérieuse, qui comprend des clusters, des grands moments de silence, et puis qui met en évidence les solistes de l'orchestre. Notamment, il y a un solo de harpe, un solo de violon, un solo de violoncelle, de cor anglais. Et donc, c'est une œuvre vraiment riche, qui a peut-être déconcerté certains auditeurs, certains spectateurs. Mais moi, j'avoue que j'ai accroché dès le début, là.
Anne-Marie ?
Je suis tout à fait du même avis. C'est une œuvre très dense qui favorise tous les solistes de l'orchestre, qui leur donne largement l'occasion de s'exprimer. Pendant 18 minutes, il y a un climat, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas simplement un exercice de style. Et cette idée de la dédier à Pierre Boulez était une très bonne idée de la part du compositeur. Et je crois que l'accueil qu'elle a reçu à la Lohengrin était, disons, très correct pour une œuvre nouvelle. Et c'est bien pour l'Orchestre du Capitole de donner aussi des œuvres d'aujourd'hui qui montrent que la musique continue.
Et alors cette œuvre complexe, hein, qui s'appelle donc Sanctil Zaman, je ne garantis pas la prononciation, c'est de l'arabe, qui signifie voix du passé. Et c'est amusant parce que c'est une œuvre qui est basée sur une pièce pour viol de gambe de Marin Marais. Marin Marais, que le compositeur a découvert dans le fameux film
Tous les matins du monde.
Tous les matins du monde. Donc voilà, alors c'est des éléments de cette suite pour viol qui lui ont servi à alimenter la thématique de cette œuvre.
Et enfin, dernière œuvre au programme, et non des moindres, la 8e symphonie d'Anton Dvorak, une merveille, autant que la 9e, moi je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, oui, bien sûr, elle est aussi belle. Hein. C'est un autre climat, puisque c'est avant son séjour aux États-Unis qu'il l'a composée, mais c'est très chaleureux comme œuvre, et c'est de cette manière-là qu'elle a été dirigée par Andris Poga, avec des moments d'héroïsme, avec une mise en valeur des pupitres de cuivre très prononcée. Hein. Donc, belle œuvre et belle interprétation, vraiment. L'orchestre a été très brillant là aussi.
Oui, je crois que de toute façon, ils n'ont aucun problème technique pour jouer ce type de répertoire et beaucoup d'autres. L'interprétation était tout à fait satisfaisante. Peut-être dans le final, un petit peu trop spectaculaire, peut-être. Ça joue un petit peu là-dessus, mais enfin, je crois que c'était surtout aussi une façon d'écouter l'orchestre dans la musique de Dvorak, qui n'est pas toujours bien perçue en dehors de la Symphonie du Nouveau Monde. Donc, on ne la connaît pas très bien, finalement.
Et encore, c'est la deuxième connue. Les autres, on ne les joue absolument jamais.
Les sept autres...
Non, on ne sait pas.
On les entend très rarement. Hein. Bon. Oui, oui. Alors, on va écouter justement un extrait de cette 8e symphonie d'Anton Dvorak, le 3e mouvement Allegretto Gracioso Molto Vivace. On écoute ça tout de suite. Le 3e mouvement Allegretto Gracioso Molto Vivace de la symphonie numéro 8 de Dvorak, joué vendredi et samedi dernier à la Lohengrin par l'Orchestre National du Capitole, sous la direction d'Andris Poga. Et de la Lohengrin, nous allons nous déplacer au Théâtre du Capitole pour évoquer la version concert d'Orphée et Eurydice, l'opéra de Gluck qui était à l'affiche vendredi et dimanche, deux représentations données dans une salle quasi comble par l'orchestre Les Talents Lyriques sous la direction de Christophe Rousset. Orphée était interprété par le ténor Frédéric Antoun, Eurydice par la soprano Judith van Banroge et L'Amour par Jody DeVos. Je crois que vous avez assisté à cette production tous les trois, mais je vais donner la parole à Robert Pénavert qui ne s'est pas encore exprimé. Votre avis, Robert ?
Alors, moi, ce que je vais retenir de ce spectacle, c'est avant tout l'Orphée de Frédéric Antoun, pour tout un tas de raisons. D'abord, une prosodie parfaite, il faut dire qu'il est québécois, et les Québécois savent parfaitement prononcer le français quand ils chantent. Ça, c'est merveilleux. Ensuite, il s'était composé, comme vous le disiez Eric, c'est en version concert. C'est toujours un peu plus difficile à rentrer en contact avec le public. Mais là, Frédéric Cantout s'était composé vraiment un visage extraordinaire. Il a fait dans ses regards, dans ses ports de tête, dans les trois bouts de gestes qu'il a fait, parce qu'en principe, c'est pas très autorisé. Il a fait passer un personnage, tout son désarroi, toute sa douleur, tout son amour, évidemment, pour Eurydice. Et il a été merveilleux. Alors, en fait, c'est la version dite de Paris, donc, qui a été donnée, celle qui a succédé à la version pour castra italienne, c'est une version donc qui est normalement écrite pour un hautecontre, c'est-à-dire ces ténors du 18e, 19e siècle qui étaient consacrés plus particulièrement à l'opéra comique avec parfois la sollicitation de registres aigus très soutenus et qui leur permettait par tout simplement la technique vocale de passer en appui mixte et qui leur permettait d'atteindre le contre, le contre-ré, parfois le contre-mi avec facilité. Donc, on se demandait qu'allait en faire Frédéric Cantout, qui en fait aujourd'hui chante les grands Mozart, Belmonte, Tamino, etc. Chante beaucoup l'opéra français aussi, qu'il adore, Gounod, Poulenc et bien d'autres. Et bien en fait, il a chanté une version relativement héroïque du rôle. Alors, sans aller, comme nous l'avions dit la dernière fois, ce qui se passait à Toulouse dans les années 20-30 du siècle dernier, c'est-à-dire donner ça à des ténors wagnériens. Non, on n'en est pas là, bien évidemment. Hein. Mais en fait, il appuyait énormément les aigus et de ce fait, il en a donné une version vocale extrêmement virile, avec une voix avec beaucoup de chair, de sensualité, et c'était magnifique. Alors tout cela n'empêche pas évidemment de respecter le style de l'œuvre, de respecter les nuances, de mettre beaucoup d'émotion dans ce qu'il a fait, et il a eu un triomphe mais largement mérité. Alors, à côté de lui, malheureusement, nous avions une Eurydice, une soprano hollandaise que nous connaissions, puisqu'elle est venue par deux fois à Toulouse, dans les Indes de Galante et dans le Roi Arthur. Et bon, a priori, c'était pas tout à fait ça, puisque le médium n'était pas projeté, le grave n'était pas là. Par la suite, nous avons appris, mais enfin, comme c'est des rumeurs, nous, journalistes, ne pouvons pas l'écrire, qu'elle n'était pas en grande forme. Mais c'est dommage alors qu'il n'y ait pas eu une annonce de fête, oui. Donc, Judith Van Landroge, elle n'a pas démérité, mais enfin, elle n'était pas au niveau de son Orphée, très clairement. Par contre, la petite Jodie De Vos, la petite soprano belge, je dis petite parce qu'elle a 29 ans, à peine, que j'avais entendu dans un midi du Capitole qui ne m'avait pas fondamentalement conquis. Là, par contre, là, c'est sûr, l'amour dans l'Orphée de Gluck, c'est pas quand même la scène finale du Crépuscule des Dieux. Hein. Mais encore faut-il le faire et bien. Eh bien, ça, elle l'a fait. Mais elle l'a fait tellement bien que dans le trio, c'est elle un peu qui a supplanté vocalement Eurydice, ce qui est dommage, puisqu'en fait, c'est un peu déséquilibré, mais elle y était pour rien, bien sûr. Hein. Alors, je voudrais saluer la performance des phalanges chorales du Capitole de Toulouse, dirigée par Alfonso Cayani, et qui se sont révélées d'un niveau, encore une fois, exceptionnel, dans un répertoire qui n'est pas le leur. Très clairement, Gluck n'est pas très souvent donné au Capitole. Hein. Eh bien, ils se sont fondus dans ce répertoire-là, tant en termes de musicalité, de style, de diction, et en même temps, ils se sont engagés scéniquement. Par exemple, dans la scène des Furies, c'était troublant tout ce qu'ils faisaient passer. Donc, c'était vraiment merveilleux. Ensuite, évidemment, les talents lyriques, dirigés par leur fondateur Christophe Rousset. Bien sûr, je pense que l'approche musicologique, je ne suis pas capable de juger ça, mais j'imagine qu'elle est tout à fait transcendante, bien évidemment, et qu'on ne discute pas là-dessus. Par contre, ce que je peux regretter, c'est que c'était un peu sec. En particulier, tout le début, toute la première partie de l'œuvre, justement, ça manquait de la sensualité qu'avait Frédéric Cantout. Certains diront que c'était très baroque. Enfin, on peut jouer le baroque autrement aussi, voilà.
J'entends souvent ce reproche fait à l'Orchestre des Talents Lyriques, le côté un peu sec. Bon. Est-ce que vous partagez l'avis de Robert, Anne-Marie et Serge ?
Moi, personnellement, oui, tout à fait, y compris en ce qui concerne les talents lyriques. C'est vrai qu'il y a un côté un peu sec. On peut l'imputer un peu aux instruments anciens, mais je ne crois pas que ça soit le propre de tous les orchestres baroques. Donc, c'est aussi un parti pris. Cela dit, là, bon, c'est vrai qu'il est dirigé même avec beaucoup d'énergie. Ça avait donc une expression dramatique réelle, mais on attendrait un peu plus de souplesse, disons, dans les cordes, notamment, etc. Et à côté de ça, c'est vrai que le chœur du Capitole était vraiment superbe, nuancé, et il n'avait pas besoin de prétendre interpréter la musique dite baroque, enfin de cette époque, d'être spécialisé pour en offrir une interprétation aussi nuancée, avec tout ce qu'il faut. Donc, ce n'est pas la peine forcément de dire nous, on est des spécialistes, pas des spécialistes. Ce répertoire doit être joué ou chanté, je pense, avec aussi du cœur, de l'expression d'abord. Et c'est pour ça que le ténor Frédéric Cantout était sur tous les plans à la mesure de ce rôle. Et sur le plan expressif, il a essayé à chaque instant d'exprimer un personnage. Et je pense qu'il a très bien réussi. Moi, j'ai assisté à la dernière représentation qui était le dimanche. Les gens étaient ravis de découvrir cette œuvre qu'ils ne connaissaient pas forcément. Bon, il y a eu un très très bon succès public, donc à ce niveau-là, c'était assez réussi. Mais c'est vrai, Eurydice n'était pas dans ses meilleurs jours et que la petite De Vos, c'était charmante, l'amour. Voilà, mais c'est une œuvre aussi qui n'est pas évidente. En dehors de « J'ai perdu mon Eurydice », et puis il y a le merveilleux ballet des ombres heureuses. Et il y a des moments qui sont magnifiques. Voilà, c'était quand même une façon de redécouvrir cette œuvre. Mais on attend peut-être une autre interprétation aussi, voilà.
Certes. Oui, je voudrais juste rajouter, au bénéfice des talents lyriques quand même, la beauté des timbres. Il y avait en particulier la flûte danse, cette fameuse danse des ombres heureuses a été magnifique, vraiment. Elle avait même fruité, c'est une flûte en bois évidemment, telle qu'on l'utilise maintenant jusque dans Mozart, hein. Donc c'était vraiment très beau.
On referme la parenthèse Orphée-Eurydice et nous enchaînons avec le dernier concert des Clés de Saint-Pierre, le quatrième de la saison. Il a eu lieu lundi à Saint-Pierre-des-Cuisines avec un quatuor à cordes entièrement féminin. Formé de Sarah Yankou, Edwige Farinck, Juliette Gilles et Sharon Rothman, le programme était lui exclusivement masculin et intitulé Impressionnisme. Trois œuvres ont été jouées, le quatuor numéro 1 opus 5 dédié à Paul Cézanne de Darius Milhaud, le quatuor Ainsi la nuit d'Henri Dutilleux et le quatuor en sol mineur de Claude Debussy. Nous y étions tous les trois, Serge Chosy, Robert Pénavert et moi-même. Un voyage à travers près d'un siècle de musique française avec l'impressionnisme comme fil conducteur. Moi, je dois dire que ça m'a beaucoup plu. Je suis un inconditionnel de la musique française, donc j'étais un peu converti d'avance. En plus, il m'a semblé que l'interprétation était vraiment à la hauteur. Robert et Serge, vos impressions après cette soirée impressionniste?
Si vous permettez, Eric, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. C'était un programme composé de compositeurs masculins. Eh bien, en contrepartie, c'était un quatuor entièrement féminin. Je trouve ça très, très bien. Alors, simplement, avant que je vais laisser Serge, bien évidemment, s'exprimer de manière très musicologique sur cette interprétation, mais simplement, je voudrais souligner l'engagement de ces musiciennes pour aborder des œuvres, que ce soit le Milhaud, le Dutilleux ou le Debussy, qui est peut-être entendu un peu plus souvent, mais je ne suis pas persuadé que ces quatre musiciennes l'aient à leur répertoire courant.
Non, je peux vous dire que non. Voilà. Pour discuter avec elles, non, bien sûr que non.
Voilà. Donc, ça veut dire qu'en plus de tout le travail qu'elles ont à faire pour l'Orchestre du Capitole, pour le Théâtre du Capitole, enfin voilà, etc., eh bien, elles osent s'accrocher et passer tout leur temps libre à travailler des œuvres, Dutilleux en particulier, extrêmement pointues, très difficiles à mettre en place. Et je ne sais pas si Serge est de mon avis, mais personnellement, j'ai passé une soirée de découverte merveilleuse.
Oui, c'est évident. Je voudrais faire une remarque. On s'étonne, enfin, on trouve remarquable que ce soit quatre femmes qui soient là, mais quand c'est quatre hommes, on ne s'étonne pas. On trouve ça normal.
C'était pour la petite histoire.
Là. Non, mais oui, je sais bien. Alors,
c'est quoi ce genre de remarque?
C'est vrai. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de femmes, notamment au sein de l'Orchestre du Capitole.
Oui, justement, je voulais dire.
Et donc, quand tu as un quatuor à cordes composé de musiciens, on trouve ça normal. Quand ce sont quatre musiciennes, on est étonné. Alors, il faudrait peut-être remettre un peu...
Quand on regarde les pupilles de corps de l'Orchestre du Capitole, c'est pas si étonnant que ça, parce qu'elles sont majoritaires maintenant.
Mais oui.
Et j'allais ajouter, il y a eu depuis quelques années un rajeunissement, une féminisation des musiciens de l'Orchestre du Capitole, pour le meilleur, il faut le dire.
Absolument.
Aussi.
Absolument.
Pour le meilleur.
Absolument. Non, c'est très bien. Donc, pour parler quand même très rapidement du programme, alors, l'œuvre de Milhaud, qui n'est pas si courante, c'est le tout premier des 18 quatuors que Darius Milhaud a composé. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment du soleil de Provence, là. Hein. Bon, Milhaud est provençal.
Milhaud est à Marseille, mais qui est donc... Alors, son père, j'ai vu, avait été le fondateur de la Société Musicale d'Aix-en-Provence.
Oui, voilà. Il est très lié à Aix, voilà. Hein, effectivement.
Alors, comme Paul Cézanne.
Très, très bien. Vraiment, ils l'ont interprété avec beaucoup de lumière, de grâce. Ah, ça, c'était vraiment excellent. Et puis, par contre, Ainsi la nuit, le quatuor d'Henri Dutilleux, alors ça, c'est une autre paire de manches. C'est quand même une partition qui demande du travail. Et elles ont beaucoup travaillé. Et moi, je suis admiratif de la précision avec laquelle elles ont exécuté cette œuvre.
Parce que ça ne pardonne pas, je pense.
Hein, ah non. Il y a en particulier des moments de pizzicati. Si ça ne tombe pas ensemble, voilà. Si ça fait un arpège, ça ne va plus du tout. Et bien là, ce n'était pas le cas. C'était vraiment une espèce de rêve qui s'est déroulé pendant cette exécution. Donc vraiment très, très bien. Et puis le quatuor de Debussy, qui est évidemment l'œuvre la plus connue des trois, la plus souvent jouée. joué. Bon, on sait que c'est une merveille et que c'est une œuvre formidable. Et là, elles lui ont donné quand même un élan vital particulier. Ça n'est pas resté dans le flou artistique impressionniste. Elles ont vraiment suscité la partie rythmique importante. Donc, moi, j'ai trouvé ça aussi très beau, très beau concert.
Je voudrais un petit mot aussi sur le fait que chaque œuvre a été présentée par Joëlle Farinck, la mère d'Edwige Farinck, qui a recontextualisé vraiment la création, la composition de ces œuvres. C'était passionnant.
Très bien, absolument. Oui.
C'était vraiment passionnant. Alors, on va faire entendre la musique d'Henri Dutilleux et un extrait d'Ainsi la nuit, cette œuvre puissamment évocatrice, mystérieuse, étrange, déstabilisante, comme peuvent l'être la nuit et son monde. C'est le tout premier des 7 morceaux. Il est intitulé Nocturne. Nocturne, premier morceau d'Ainsi la nuit, le quatuor à cordes d'Henri Dutilleux. C'était la deuxième œuvre au programme du récent concert des Clés de Saint-Pierre. Le dernier de la saison a lieu le lundi 30 avril, à Saint-Pierre-des-Cuisines bien sûr, et c'est encore la musique française qui est à l'honneur, avec un programme intitulé « Élégance française ». Du quatuor à cordes, nous passons au trio avec piano. Mardi, encore à Saint-Pierre-des-Cuisines, la saison bleue d'Alain Lacroix proposait un concert interprété par 3 musiciens prestigieux, la violoncelliste Anne Gastinel, le violoniste David Grimal et le pianiste Philippe Cassard. Ils ont joué 3 trios de Beethoven, le 1, le 4 et le 5. Autant dire que tout était réuni pour une soirée musicale de très haute tenue. Et je dois dire, Serge Chosy, que dans l'ensemble, nous n'avons pas été déçus d'avoir bravé le froid pour assister à ce concert.
Non, pas du tout. Effectivement, on n'a pas été déçus. Alors, évidemment, on connaît Philippe Cassard, sa verve et sa manière de parler. Eh bien là, quand même, il a laissé parler David Grimal, qui a beaucoup présenté sur un mode plein d'humour, d'ailleurs.
Très, très drôle, souvent.
Très bien fait. C'est bien qu'il y ait quelques mots de présentation, quand même.
Ah, oui.
Donc, ces 3 trios. Alors, Philippe Cassard a dit une chose très juste. Les 2 premiers, donc l'opus 1, numéro 1, et puis l'opus 11, donc le 4e, quand même, ils ont un lien très fort avec Mozart et Haydn. Et le piano est dominant. Alors, au tout début,
un peu
trop
dominant, oui, au début, parce que malheureusement, il y a des moments où on n'entendait pas le violon de David Grimal.
Non, c'était un peu gênant. Là, le tout premier, hein.
Oui,
ensuite, ça s'est beaucoup amélioré. Et puis, par contre, après l'entracte, il y avait le fameux Geister Trio, le trio des esprits ou des fantômes, suivant la traduction, qui est une merveille absolue, qui est un peu le début du romantisme, hein. C'est là qu'on voit que Beethoven est à la fois le dernier des classiques et le premier des romantiques, hein. Donc.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution.
Oui. Ça, c'était intéressant.
Sa composition, même dans ambiance de ses œuvres, parce qu'il y a aussi l'évolution de l'homme, Beethoven, et on sait ce qui lui est arrivé entre-temps. La surdité qui le gagne de plus en plus.
Oui, et puis là, donc pour ce quatuor, le 4e quatuor, bon, il était déjà très, très handicapé, mais bon, l'œuvre est forte, hein, et notamment le 2e mouvement, le fameux 2e mouvement, qu'il avait soi-disant composé pour accompagner une pièce Macbeth, mais pas le Macbeth de Shakespeare, hein, mais je crois que ça n'a pas abouti. Donc c'est vraiment un mouvement terrifiant, hein, incroyable, hein. Et qui a été magnifiquement joué. Et là, les 3 égalités.
Ah, c'était un crescendo dans la qualité d'interprétation, vraiment.
Là, enfin, il y avait vraiment une égalité complète entre violon, violoncelle et piano. Donc, c'était très, très bien.
Et puis, alors, ce qui était étonnant, c'est le bis dont ils nous ont gratifié.
Et oui.
On ne s'attendait pas à ça,
franchement. Non, le bis, ils sont revenus au Schubert qu'ils avaient joué 2 ans avant.
Oui, ils avaient joué
les Schubert
2 ans.
Ils avaient joué les deux trios de Schubert. Et là, ils ont donné le mouvement lent du deuxième trio.
Oui, l'opus 100, le fameux opus 100.
Ce mouvement qui ressemble au Voyage d'hiver, quoi, complètement.
Bon, pour ceux qui auraient du mal à le situer, c'est celui qu'on entend dans Barry Lyndon, le film de Kubrick. Voilà. Donc voilà, vous savez tout de suite à quoi on fait allusion.
Voilà, ça c'était.
Et nous l'ont joué en entier. Donc c'était un bis très long. C'est pas le petit bis de 2 minutes.
Non, tout le mouvement. Ce fameux mouvement lent, donc, qui était une pure merveille. Donc, c'était très très beau.
Oui, c'était une très belle soirée. Et comme vous l'avez dit, les présentations étaient pleines de drôleries. Il y avait des petits jeux. On les voyait même sourire pendant qu'ils jouaient en se regardant.
Oui, oui.
Donc il y a vraiment beaucoup de complicité entre ces 3 musiciens.
Ouais, ils se connaissent bien. Hein.
Oui, depuis longtemps, ils jouent ensemble depuis longtemps. Allez, même si on n'en a jamais fini avec Beethoven, c'est avec lui que nous terminons cette première partie d'émission. On se retrouve dans 1 minute avec Catherine Dargoubet pour évoquer longuement avec elle les prochains concerts de la saison des grands interprètes. Restez bien avec nous, à tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
C'est la seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro. Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi. Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse. Chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse. Également chroniqueur pour Culture 31 et les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Et nous sommes bien sûr en compagnie de notre invitée d'honneur, Catherine Dargoubet, fondatrice et directrice des Grands Interprètes.
Mélomanie. L'agenda.
Et avec Catherine Dargoubet, vous vous en doutez, nous allons largement consacrer cette seconde partie d'émission au prochain concert des grands interprètes, la saison qu'elle a créée et qu'elle dirige depuis maintenant plus de 30 ans, puisque la fondation remonte à 1986. Il y a un mois de mars, très chargé, comme je l'annonçais au début de cette émission, avec 4 concerts entre le 8 et le 30 du mois. Nous allons regarder ça en détail avec vous, Catherine Dargoubet. Avant cela, je voudrais vous poser une question pour assouvir une petite curiosité personnelle. Comment faites-vous pour bâtir la programmation de vos saisons ? Parce que lorsqu'on regarde bien, on voit qu'il y a des fidélités à des musiciens et des orchestres. Et puis chaque année, il y a aussi quelques nouveautés. La règle, évidemment, c'est que ce soit des grands, mais les grands sont très demandés en général. Alors comment vous procédez pour réussir ce qui ressemble à un savant mais complexe dosage ?
Mais je pense que vous avez déjà répondu à la question. En fait, sur une saison de concerts, de 15 à 18 concerts, on essaie de proposer au public une programmation qui allie des concerts de musique de chambre, des récitals de grands solistes, des orchestres symphoniques. Donc, on essaie un petit peu de bâtir une saison comme cela. Ensuite, cela va être plutôt, soit effectivement, vous parliez de fidélité, et c'est vrai qu'il y en a certaines aux grands interprètes, et c'est vrai que sur le fil des années, on évoque ensemble des propositions de programme ou de l'avenir, ou quelles vont être les perspectives, les désirs, ou peut-être même des choses un petit peu anachroniques. Je me rappelle d'une conversation avec Kurt Masur qui nous parlait de ce qu'il avait en tête, c'est-à-dire de créer une œuvre de Wynton Marsalis. On s'est dit, mais il faut absolument qu'on fasse ça à Toulouse aussi, etc. Et c'est comme ça qu'on avait eu l'occasion d'accueillir le National avec Marsalis et Masur. C'était une rencontre musicale extraordinaire entre ce grand Kapellmeister et Marsalis avec tout le talent qu'on lui connaît. C'était une belle rencontre musicale. Donc il y a bien sûr des choses comme ça qui sont merveilleuse, et ensuite des perspectives musicales où on suit les artistes, on a envie de les accompagner dans leur progression, dans leur proposition artistique, et bien sûr ensuite on a des rêves, on va inviter tel artiste, tel musicien, c'est des coups de cœur, des rêves que l'on porte et ensuite que l'on peut réaliser, que l'on insère dans la programmation.
En parlant des rêves, cette année on a enfin eu droit à Daniel Barenboim à Toulouse, grâce à la saison des grands interprètes. Alors je crois que vous le pistiez, si je puis m'exprimer ainsi, depuis des années. Vous avez enfin réussi à l'avoir. Est-ce qu'il y a d'autres musiciens que vous espérez faire venir depuis des années et
mais vous espérez que ça se concrétisera un jour.
Alors en ce qui concerne Daniel Barenboim, en fait, ce n'était pas le pianiste que l'on voulait faire venir au départ. On voulait le faire venir avec un de ses orchestres. Comme il dit, j'ai 5 vies, alors entre ces vies, bien sûr 2 pianistes, et ça, il y est très attaché. Il ne veut absolument pas mettre sa carrière de pianiste de côté. Ça fait vraiment partie intégrante de son ADN et il veut vraiment le conserver et lui donner une part entière. Mais il a fondé quand même le Divan Orchestra avec toute l'histoire et tout le message qu'il comporte, puis ensuite bien sûr tous les autres orchestres qu'il dirige. Donc c'était plutôt vers ça que l'on s'orientait, mais on n'a pas pu encore le réaliser. C'est assez difficile de s'insérer dans des tournées d'orchestre. C'est toujours pas à pas que l'on fait. Cette année, on a proposé 2 concerts avec le Chamber Orchestra of Europe, avec Yannick Nézet-Séguin, qui sera le nouveau chef du Metropolitan, et Yavan Sveden, qui malheureusement n'est pas venu parce qu'il avait un lumbago, et qui lui va prendre les rênes du New York Philharmonic. On lui a dit que, à charge de venir avec son nouvel orchestre, ce qu'on aurait pu réaliser en 2020, mais entre Berlin et Londres, c'était difficile d'arriver à trouver une opportunité, et on s'est inscrit pour 2023 pour accueillir cette magnifique phalange. Donc c'est toujours, je dirais, work in progress, c'est toujours en discutant avec des artistes, soit des artistes que l'on aime, d'où les fidélités, soit avec des programmes qui, on se dit, c'est merveilleux, c'est vraiment dans son jus, c'est son jardin, il faut absolument les inviter. Je dirais, c'est un peu du cousu humain et c'est la liberté que nous laissent les grands interprètes, c'est qu'on est très à l'écoute de nos envies, des passions, des interprètes qui nous entourent .
Les fidélités les plus anciennes aux grands interprètes qui donc, je le disais tout à l'heure, ont été fondées en 1986. Peut-être Martha Argerich, entre autres, mais il y en a peut-être d'autres. Sokolov, il y a très longtemps aussi, qui vient.
Oui, c'est vrai.
Dans la catégorie des orchestres, Saint-Pétersbourg, quand
oui,
même.
Oui, Saint-Pétersbourg, bien sûr.
Relativement souvent.
Oui,
depuis le début.
Depuis le début. Oui, oui. On peut citer aussi l'autre orchestre de Saint-Pétersbourg, le Mariinsky, avec Valérie Gergiev, qui sont venus dès les premières années, et c'est vrai, avec beaucoup de fidélité. Et maintenant, comme le Bolshoï commence à faire tourner l'opéra, pas le ballet, parce que bien sûr tout le monde connaît le Bolshoï dans le monde entier pour son ballet qui est extraordinaire, mais c'est vrai que les tournées de l'opéra, du chœur, c'est tout à fait récent. Et bien sûr, quand Tougan Sokiev nous a proposé de venir à Toulouse avec le Bolshoï pour donner Jeanne d'Arc, on était bien sûr très enthousiastes et on s'est dit que c'était une formidable idée et il y aura d'autres projets dans ce sens à l'avenir.
C'est pas pour rien que ça s'appelle les grands interprètes. Et bien on en vient maintenant à ces concerts du mois de mars. 4 donc. Le premier a lieu jeudi 8 mars à 20h à la Hallograin, bien sûr. C'est l'orchestre Biroc dirigé par René Jacobs qui va se produire avec la soprano Robin Johansen. Ils vont interpréter un programme où l'on trouve les symphonies numéro 1 et numéro 6 de Schubert et des airs de Mozart. Alors là, sauf erreur de ma part, il s'agit justement d'une première aux grands interprètes.
Oui. René Jacobs est un musicien que nous affectionnons et que nous chérissons. Et c'est vrai que les Biroc, c'est un orchestre baroque qui est belge et qui n'a pas de chef permanent. Et inviter René Jacobs avec cette formation que nous connaissons peu ici à Toulouse était une opportunité de faire découvrir cette formation dans ce répertoire qui leur est vraiment propre.
C'est un personnage aussi, René Jacobs.
René Jacobs a été l'un des contre-ténors les plus célèbres de son époque, vraiment. Et puis, dans les années 80, il s'est mis à diriger surtout du lyrique d'ailleurs. Mmh. Donc, c'est un grand musicien au sens noble du terme, dans tous les domaines qu'il a abordés. Donc, c'est une grande chance que l'on ait ce grand musicien ici, avec une jeune soprano, qui est Robin Johansen, qui vient des États-Unis, donc qui est américaine, qui est passée par Berlin, qui va chanter des airs de Mozart, à la fois des airs virtuoses et des airs très nostalgiques.
Ils ont déjà travaillé ensemble.
Oui, exactement. Donc,
c'est un programme très dense. D'ailleurs, il y a quand même 2 symphonies de Schubert.
Oui, elles sont assez courtes.
Oui.
Tout de même.
Mais quand même.
Des univers très différents.
Oui.
Alors notez bien, donc jeudi 8 mars à 20h à la Hallograin, concert suivant 6 jours après, mercredi 14 mars, l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon avec Samine Neuvielle, qui se trouve être la compagne de Raphaël Pichon pour ceux qui ne sauraient pas, et qui vient d'être doublement récompensé aux victoires de la musique classique. Le programme peut paraître un peu mystérieux comme ça parce qu'il est intitulé « Le dernier voyage du compagnon Mozart ». Il y a le Requiem et il y a des œuvres maçonniques, je ne sais pas lesquelles. Alors là, Catherine Dargoubet va peut-être pouvoir pouvoir préciser de quelle pièce il s'agit.
Alors, il s'agit de pièces d'une Trauermarsch et d'un air pour basse qui ont été insérées dans le programme. Il y aura d'autres œuvres, mais qui ne sont pas de Mozart, que Raphaël Pichon a ajouté dernièrement. C'est toujours ce que j'adore avec Raphaël Pichon et l'ensemble Pygmalion, c'est qu'on part d'un programme et puis alors le programme se modifie au fur et à mesure des mois, des semaines. Bon, alors peut-être pour le public c'est un peu déstabilisant, mais j'aime bien cette façon de travailler, d'ajuster vraiment le programme jusqu'à ce qu'il soit prêt et être dans une harmonie et un voyage que l'on va opérer. Et ça, j'aime bien cette liberté-là.
Comme on a des amoureux du chant lyrique ici, j'aurais un mot sur Sabine Devielle, Robert.
Alors, Eric, je vais vous étonner, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je n'ai jamais entendu Sabine Devielle.
Ça, par exemple.
Voilà, je m'explique, je ne l'ai jamais entendu en direct.
Sur scène, vous voulez dire.
Ouais,
oui,
sur scène, voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis toujours très réservé sur ce que je peux dire au sujet d'une voix. Donc, évidemment, je l'ai entendu au disque, je l'ai entendu à la télévision, etc. Mais au travers du prisme d'un micro, on ne peut pas se rendre compte de l'impact d'une voix. Et donc, j'avoue très humblement, Eric, que je n'ai jamais entendu Sabine Devielle.
Donc, vous n'avez pas d'avis, non. En tout cas d'avis arrêté. Qui l'a entendu ici, Anne-Marie ?
En concert, c'est ça, oui. Avec le Pygmalion, c'était quelle année ?
Ils viennent tous les deux ans.
Oui, oui, on les...
Oui, oui, absolument.
Il y a deux ans. Concert Mozart, justement. Il est très intelligent, un concert amusant, avec des variations.
Très facétieux.
Oui.
Mais je pense que, justement, le travail que fait Raphaël avec l'ensemble est une progression, une évolution. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est un ensemble des plus aboutis, oui. Vraiment. Oui. Il y a le travail, il y a la recherche, mais il y a surtout la musique. Ces idées très amusantes, très originales de programme. Il y a toujours... C'est juste parfait, et c'est ce qui nous plaît d'accompagner Pichon dans
qui
ce...
Une cohérence, je trouve, bien sûr, dans ce qu'il fait.
Une pertinence, une intelligence,
une fantaisie,
tout à fait, une créativité.
Dans la manière de composer ses programmes,
oui,
toujours.
Hein.
Donc, Requiem et œuvre maçonnique. Ah, Robert a quelque chose à dire.
Oui, justement.
Vous n'avez pas tout dit.
Si. Mais vous parlez de programmes extrêmement intelligents. Alors, effectivement, je voudrais faire référence au dernier disque de Sabine Devielle. Alors, ce n'est pas Pichon qui dirige, mais peu importe.
Ah oui, c'est François-Xavier Roth.
Qui s'intitule Mirage. Et dans ce...
Avec les siècles, oui. Mmh. Oui.
Voilà, c'est avec les siècles, voilà. Et donc, dans cet enregistrement, il y a l'opéra, la signature de Sabine Devielle, qui est l'Acmé. Alors, effectivement, ce que l'on entend a l'air assez impressionnant, hein, c'est-à-dire un aigu qui a l'air de sortir assez facilement, hein, un médium relativement dense, un appui dans le grave également que très souvent on n'entend pas dans ce rôle-là. Et alors, dans cet enregistrement, il y a du messager, il y a de Lieb, il y a Koechlin, il y a Stravinsky. C'est très bien fait. Pour moi, il y a également des découvertes. J'en parle avec Serge, dans les chants hindous, qui ne sont pas souvent donnés, hein, que moi je découvrais. Et effectivement, c'est très très intéressant à écouter. Ensuite, je reste sur le fait que, en direct, je ne l'ai jamais entendu. Voilà.
Bon, alors on va écouter Sabine Devielle et l'ensemble Pygmalion dans du Mozart. Il s'agit d'un air on ne peut plus célèbre, l'air de la Reine de la Nuit, de la flûte enchantée. On sait qu'il y a beaucoup de symboles maçonniques. On l'écoute tout de suite, Sabine Devielle.
Du Schmerzen, so bist du mir.
Le fameux air de la Reine de la Nuit dans la flûte enchantée, interprété par Sabine Devielle et l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon. Ils sont donc programmés à la Halle au Grain, mercredi 14 mars à 20h, avec le Requiem et des œuvres maçonniques de Mozart. Et à propos du Requiem, vous vouliez préciser quelque chose, Catherine Dargoubet?
Oui, justement, on parlait de Raphaël Pichon et surtout de son souci des programmes et des œuvres qu'il insère dans la réalisation de ses programmes. Alors, en l'occurrence, le Requiem qui nous fera entendre, la fin a été réalisée par Pierre Henri Dutronc en 2016, donc pour moi à découvrir.
Il ne s'agit donc pas de la fin de Soussmayer.
Non, absolument. Oui.
Une réécriture donc, qui sera à découvrir à l'occasion de ce concert.
Pardon, cette révision, puisqu'on a Catherine autant en profiter, s'appuie sur quoi exactement?
Alors,
sur quels éléments musicologiques?
Je ne sais pas. Justement, je ne la connais pas, je ne l'ai pas entendue. Et elle a été réalisée il y a 2 ans, mais je ne l'ai jamais entendue.
Mais il y a plusieurs
Il y en a plusieurs.
Il y en a même qui viennent du Brésil. Hein. Donc,
le seul qu'on n'a pas, c'est celui de Mozart.
Voilà.
Donc, le concert suivant, c'est le lundi 19 mars, où vous recevez David Cadouche et Edgar Moreau, un duo piano-violoncelle formé par deux jeunes musiciens très talentueux qui viennent de faire paraître un CD d'enregistrement de sonates romantiques françaises pour violoncelle et piano. Ce sont des pièces tirées de ce disque qu'ils vont jouer. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce programme?
Mais c'est un très beau programme, je trouve, de musique de chambre, très bien équilibré, avec, bien sûr, la magnifique sonate initialement pour violon de Franck, que jouera Edgar Moreau et David Cadouche. Ensuite, cette œuvre de Poulain, qui est peut-être un moins à la hauteur, je dirais, en intensité que le reste du programme, mais justement qui fait une très belle transition avec la grande sonate de Rita Stroll que tout le monde découvrira, pour ceux qui n'ont pas écouté le disque. Mais c'était une femme, une compositrice française très originale et très exaltée qui voulait créer un Bayreuth français.
Juste un personnage, j'ai lu un petit peu la scénographie.
Mari qui était pianiste et qui mais aussi enfin son second mari qui a réalisé les vitraux de Fontfroide, un couple incroyable. Bon, ils n'ont peut-être pas réalisé le Bayreuth français, mais en revanche elle a composé pas mal d'œuvres, dont cette grande sonate dramatique pour violoncelle et piano que l'on va découvrir. C'est une belle proposition de programme.
Oui, ce CD là que j'ai écouté partiellement, il y a une vraie prise de risque parce qu'ils jouent des œuvres qui sont très peu connues. Le Poulain, la sonate pour violoncelle et piano, c'est un inédit apparemment. Et puis donc Tachetrol, il fallait la chercher quand même.
Oui, ils sont tous les deux, je dirais, à l'apogée de leur carrière. Ils peuvent se permettre justement d'aller vers des contrées méconnues. Et je trouve que c'est bien parce que, bon, on est toujours dans les mêmes répertoires. Donc là, on était ravis de les accueillir tous les deux à Saint-Pierre-des-Cuisines, qui pour moi est un lieu admirable et propice justement à la musique de chambre.
Et voilà,
magnifique.
Donc ça, ce sera Saint-Pierre-des-Cuisines, c'est pas à la Lograin. Bon, le CD, moi j'ai écouté un peu, c'est vraiment des interprétations pleines d'ardeur. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Témoignage tout de suite avec un extrait de la sonate à la base, donc pour violon et piano, arrangée pour violoncelle de César Franck, interprétée par David Cadouche et Edgar Moreau. Thank you. Extrait de la sonate pour violoncelle et piano de César Franck, interprété par David Cadouche et Edgar Moreau, que vous pourrez entendre à Saint-Pierre-des-Cuisines lundi 19 mars à 20h, avec au programme de ce concert, outre celle que nous venons d'entendre de César Franck, les sonates de Poulenc et de Rita Stroll. Dernier concert du mois de mars, vendredi 30, le retour de l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Myung Woon Chung. Une seule œuvre au programme, mais pas n'importe laquelle, la colossale 9e symphonie de Gustav Mahler. L'Orchestre de Radio France, ça c'est une fidélité ancienne pour les grands interprètes.
C'est vrai, le Philharmonique et le National. Le National du temps de Mazur, c'est vrai qu'on les a beaucoup invités. On les a réinvités cette année, après quelques années de césure, avec son nouveau chef, avec Emmanuel Crévin et Martin Rigrige. Mais l'Orchestre Philharmonique, oui, c'est une amitié très ancienne. Et c'est vrai, quand ils nous ont proposé la 9e, on n'a pas hésité longtemps. Ces dernières symphonies de Mahler sont quand même inouïes dans leur composition, dans le contraste, dans tout ce qu'elles évoquent, tout ce qu'elles font. C'est toujours des moments de musique inégalés et surtout incomparables. Donc, on a été très heureux d'avoir cette belle proposition.
Et puis, il s'agit là de la dernière symphonie achevée.
Il a commencé la dixième, quand même, un mouvement.
Et puis des esquisses des autres mouvements, mais ça n'a jamais abouti. Oui. Si, il existe une version complétée par Derek Cook, qui avait été enregistrée par Simon Rattle d'ailleurs, il y a des années. Mais c'est vraiment l'ultime symphonie achevée avec ses quatre mouvements. Oui. C'est une merveille.
C'est une merveille. Et on a la chance d'avoir ce très bel enregistrement de Bruno Walter, qui a été quand même son complice, son confident. Il suivait l'évolution des œuvres. Et quand on entend, c'est un vrai témoignage, cet enregistrement.
Absolument.
Qui a été fait dans les années 40, il est extraordinaire.
Un grand orchestre, un grand chef pour une œuvre superbe à découvrir donc, ou à redécouvrir, le vendredi 30 mars à la Logan, cette fois-ci à 20h. Pas de concert en avril, le suivant est programmé jeudi 3 mai à 20h, mais à Saint-Pierre-des-Cuisines de nouveau. Et c'est le jeune guitariste toulousain Thibaut Garcia qui va le donner, avec un programme intitulé Leyendas, légende en espagnol. Alors, il y a beaucoup d'œuvres de compositeurs espagnols, dont Albéniz, il y a du Piazzolla, il y a du Bach, il y a beaucoup de choses. C'est une première, là, Thibaut Garcia, au grand interprète.
Tout à fait, mais on aime bien à Saint-Pierre-des-Cuisines programmer des respirations, des concerts confidences, peut-être plus intimes, des concerts lectures, des formes un petit peu atypiques, des musiques peut-être un peu plus originales. Donc pour nous, ce sont des respirations dans la saison. On ne pourrait pas programmer Thibaut Garcia à la Lograin, je pense que ce serait un non-sens. Moi, je suis une fanatique de Saint-Pierre-des-Cuisines et donc j'adore des formations comme ça, pouvoir les inscrire dans la saison. Mais dans cette salle, on a peut-être un problème de jauge entre 400 places et 2100.
Ça, c'est le problème à Toulouse, on en parle souvent entre nous.
On en parle souvent, c'est un peu l'arlésienne.
Il manque une salle
intermédiaire
de 600-800 places.
Mais Saint-Pierre, magnifique.
Vous parlez de salle intermédiaire, c'est le Capitole, hein?
Oui, mais le Capitole est très pris.
Il est très pris. Je sais bien qu'il est très pris, donc, mais la salle intermédiaire, elle est là.
Et ça fait des cuisines et de plus en plus pris aussi.
Et voilà, mais c'est la taille.
C'est vrai, c'est la jauge
Capitole.
Mais c'est un opéra, c'est un mois et demi.
Plus de représentations.
Mais c'est pas le poulon, les représentations, en fait.
On va écouter Thibaut Garcia dans un extrait d'une des œuvres qu'il jouera dans ce programme Leyendas. Cette œuvre s'appelle El Noy de la Marée et c'est une œuvre d'un certain Miguel Llobet que je ne connais pas. Écoutez, c'est très très beau. Thank you. El Noy de la Marée, pièce de Miguel Llobet, très joliment interprétée par Thibaut Garcia, une de celles qui vient jouer lors de son concert du jeudi 3 mai à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Dernier concert de la saison, lundi 4 juin, avec le pianiste russe Grigori Sokolov, qui jouera 3 sonates de Haydn et 4 impromptus de Schubert. Et quand je dis dernier concert, c'est au pluriel, vendredi 15 juin, le tout dernier, avec l'Orchestre de Chambre d'Europe, Elisia Batiashvili, sous la direction d'Yannick Nézet-Séguin, un programme avec des pièces de Smetana et de Brahms. Malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler parce qu'on arrive déjà au terme de cette émission, ça passe trop vite. Merci beaucoup à vous quatre d'y avoir participé. Je rappelle que le prochain concert de la saison des grands interprètes a lieu le jeudi 8 mars à 20h à la Halle au Grain. C'est le Biroc Orchestra de René Jacobs qui s'y produit avec un programme de symphonie de Schubert et d'air de Mozart. Pour vous renseigner et réserver vos places, vous pouvez consulter le site www.grandsinterprètes.com où vous pourrez aussi vous informer et réserver pour les autres concerts de la saison en cours. Je signale aussi dimanche 4 mars à 17h à la Halle au Grain, la Musica Orchestra Academy avec Pierre Bleuze et la chanteuse Béatrice Uria-Manzon. Le même jour, à la même heure, concert du quatuor à cordes des musiciens de l'Orchestre National du Capitole au Théâtre Garonne, avec un programme intitulé « Musique d'Europe de l'Est et de Russie », que des quatuors à cordes. Évidemment, là aussi, vous pouvez vous renseigner et réserver sur www.theatregaronne.com. Je signale justement le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole, lundi 5 mars, à 20h à la Halle au Grain, avec le violoniste russe Vadim Repin et Tougan Sokiev à la baguette. Au programme, le concerto pour violon de Tchaïkovski et la symphonie numéro 12 de Shostakovich, c'est le concerto pour violon de Glazounov. Vous pouvez vous renseigner et réserver sur www.onct.toulouse.fr. Et enfin, je signale aussi que la troupe de Stéphane Delinca reprend Anacréon et Actéon, les deux cours opéras de Rameau et Charpentier au théâtre Jean Marmignon de Saint-Gaudens. C'est le vendredi 9 mars à 21h. Pour réserver et vous renseigner, je vous invite à vous connecter au site www.stgo.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission, qui est disponible en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente semaine musicale.